Père Michel Martin-Prével, bonjour.
Bonjour, chers amis.
Alors, on vous retrouve pour une nouvelle série d'émissions intitulée « Le mariage, croisière aux galères ». En fin d'année, nous serons en mesure de répondre à cette question. Aujourd'hui, vous allez nous dire que Dieu aime le mariage, mais auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau pour nos auditeurs ?
Oui, je suis donc un prêtre qui est veuf. J'ai été marié pendant 32 ans, j'ai 3 enfants et aujourd'hui 7 petits-enfants. J'ai donc passé du temps dans le mariage, dans la famille, dans ma vie. Et ensuite, donc, après mon veuvage, bien sûr, j'ai été ordonné prêtre. Je suis par ailleurs, depuis très longtemps, dans la communauté des Béatitudes, où j'ai été d'abord avec mon épouse et mes enfants. Et puis maintenant, j'y suis donc comme prêtre depuis 12 ans. Et je suis donc bien attaché, vous le comprenez, à ce que veut dire être marié, être en famille. C'est pour ça que dans ces émissions, je voudrais bien parler de la réalité du mariage, pas faire simplement une catéchèse sur la beauté du mariage et de la famille, parce que vous avez déjà beaucoup d'émissions qui traitent cela, mais être aussi plus concret pour rejoindre ce que veut dire aujourd'hui être dans le mariage, dans cette belle vocation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer par le commencement, se demander comment, dans le cœur de Dieu, le mariage a-t-il pu prendre une certaine place. Parce que, bien sûr, vous le savez, c'est dès l'origine du monde que les gens se marient. Alors, on a le point de vue humain, on peut dire beaucoup de choses sur ce que sont le mariage et la famille sur le plan humain, mais pourquoi ne pas partir, au contraire, par en haut, pour s'apercevoir qu'il y a un don, et que le mariage est d'abord un don. Il est d'abord pensé dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi je peux dire que Dieu aime le mariage parce que c'est lui qui l'a voulu. Et ça, évidemment, c'est une approche chrétienne. Ça veut dire aussi que quand on ne croit pas en Dieu ou qu'on n'a pas réalisé que ce mariage est un don de Dieu, on peut tout de même en vivre. C'est comme des gens qui conduisent une voiture et qui ne savent pas comment marche le moteur. Eh bien, les chrétiens ont un peu plus d'éléments pour savoir que l'amour vient de Dieu et que le mariage est bien conçu dans le cœur de Dieu. Alors, Dieu aime le mariage et pourtant, vous savez, c'est pas tout à fait ce que nous réalisons aujourd'hui. Parce qu'on sait que le mariage est malade, on le dit beaucoup, sans doute qu'il est un peu en crise depuis quelques décennies. Ce n'est pas tout à fait d'aujourd'hui parce que dans l'humanité, le mariage n'a jamais été vécu de façon parfaite. Certes, il y a des très beaux époux chrétiens, il y en a dans tous les siècles, et il y en a encore aujourd'hui. Je vois aujourd'hui des jeunes qui se lancent dans le mariage avec beaucoup de foi, qui ont pris des très beaux moyens pour justement ne pas se faire avoir, si je puis dire, par les données sociologiques, les données de notre monde, qui sont trop souvent des obstacles aujourd'hui pour réaliser un mariage heureux. Nous allons détailler tout cela. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait plus où on en est très bien avec le mariage. On peut dire que, et on l'entend dire beaucoup, qu'il y aurait maintenant plusieurs modèles pour le mariage. Alors on voit des familles où il n'y a qu'un seul parent, les familles monoparentales, on voit des familles qui sont faites avec des divorcés, qui se sont remariés. Et ça s'appelle des familles recomposées. Il y a même des familles qui se bâtissent sur un duo de deux hommes ou de deux femmes. On appelle ça les mariages homosexuels. Est-ce que tout ça, ce sont des nouveautés? Est-ce que ce sont des choses tout à fait équivalentes? Est-ce que ce n'est pas simplement des déviations? Est-ce qu'on peut parler de plusieurs modèles? Avant que le christianisme existe, c'est-à-dire dans la première antiquité, on avait des familles polygames dans pas mal de régions du monde. Et la polygamie existait déjà au début de l'ancienne alliance. Il y avait des familles, surtout des mariages qui se faisaient à l'intérieur des familles. On appelait ça le mariage endogame. On se mariait un peu systématiquement avec des cousins. Donc il y avait une proximité même un peu dangereuse au niveau de la génération. Et puis il y a eu les familles aussi polyandriques où il y avait des femmes qui avaient plusieurs maris, bien plus souvent polygames parce que c'était un mari qui avait plusieurs femmes. Donc on a eu ces choses-là très très de façon très ancienne. Aujourd'hui, on parle de nouveau de ces nombreux modèles. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu une supercherie? Parce qu'on peut dire quand même que ce sont des modèles imparfaits quand des enfants n'ont plus qu'un seul parent ou des enfants ne sont plus que des demi-frères et des demi-sœurs, etc. Ce sont des modèles qui existent. Il ne s'agit pas de les dénigrer. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais ces familles-là sont des familles qui assument une certaine imperfection. Et il faut les aider, bien sûr, à vivre cela. Mais est-ce que c'est normal de rechercher à constituer des familles autrement qu'avec le triangle naturel d'un homme, une femme et d'un enfant? Ça, c'est le triangle classique, on dit, et qui en fait a toujours été, pour ainsi dire, recherché, même en dehors du christianisme. C'est ce que Lévi-Strauss définissait comme la base sociologique de la famille, le triangle père-mère-enfant. Et ça, évidemment, c'est tout simplement dans le cœur de Dieu. C'est comme ça qu'on peut dire que la famille marche le mieux quand il y a bien un homme, une femme qui s'aiment et qui ont des enfants. Voilà. Alors ça, on peut dire que c'est certainement recherché par tout le monde. Et les jeunes, c'est ça qu'ils veulent vivre. Ils veulent pas vivre des mariages un peu bizarres dans les deux sens, l'union libre, etc., etc. Ils cherchent effectivement à vivre cette chose-là. Donc on a des modèles qui sont imparfaits, et pourtant il y a quelque chose vers lequel on peut tendre. Et ça nous fait retrouver la famille selon le cœur de Dieu. Tout simplement parce que l'homme et la femme, c'est ce que nous dit le début de la Bible, dans la Genèse, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Voyez bien qu'avant de parler de famille, il y a d'abord un couple. Et je crois que le couple précède la famille. Et c'est le couple qui engendre ensuite des enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu des enfants que tout d'un coup ils pensent à se marier, comme on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui passent par cette case-là. Ils commencent par vivre ensemble, avoir des enfants, et ensuite ils pensent au mariage. C'est plus normal d'abord de se marier et ensuite d'avoir des enfants. Mais je pense que vous allez poser des questions là-dessus, parce que nos enfants sont quelquefois dans ces situations-là. Ils ne sont pas mariés, il y en a tant qui ne sont pas mariés, ça nous inquiète. Et on se dit, mais est-ce que c'est normal? Alors, il n'est pas question de dire il y a du normal et de l'anormal, mais il y a des choses qui sont plus ou moins parfaites et qui marchent plus ou moins bien. La preuve en est que si la famille est bien dans le cœur de Dieu conçue comme cela, comme un homme, une femme qui se respectent, qui s'aiment, qui se donnent l'un à l'autre, et dans le don d'eux-mêmes, il y a ce prolongement dans la génération, dans l'engendrement, et ils ont des enfants. Et quand ils n'ont pas d'enfants, il y a tout de même ce couple qu'ils peuvent former, ce sont les couples sans enfants, qui ont aussi une raison d'être. Voilà comment ça peut être conçu dans le cœur de Dieu. Et l'Écriture, je vais vous parler un peu de ce que l'on voit maintenant dans la Bible, ce que la Bible nous révèle de la famille. Eh bien, on n'est pas du tout chez les bisounours, on n'a pas une famille idéale, que ce soit dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors faisons un petit rapide voyage dans ces familles de l'histoire sainte. Ça commence tout de même par des familles que l'on a voulu idéales, la famille des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Mais ces familles-là, elles commencent à peine à avoir une certaine idée de Dieu. Abraham, bien entendu, a une très grande foi, mais il ne connaît pas bien, bien son Dieu. Et voilà pourquoi Abraham va avoir des tentations. Il y a, chez ces gens-là, il y a d'abord l'obsession de la fertilité, le fait qu'ils ont surtout, surtout besoin d'avoir des enfants et des enfants nombreux. Voilà pourquoi Abraham, qui lui n'a eu qu'une seule femme, à certains moments pour se tirer d'affaire avec des rois qui lui voulaient du mal, et en particulier avec le pharaon d'Égypte. Il a osé donner sa femme à quelqu'un d'autre. Vous voyez jusqu'où ça allait. Il y a aussi, bien sûr, la tentation, en écoutant sa femme Sarah, il a voulu avoir des enfants autrement qu'avec sa femme. Et alors, il a, sur le conseil de sa femme, il a eu un enfant avec sa servante, Agar, qui n'était pas l'enfant de la promesse. Et puis aussi, ce couple était infertile. C'était quand même très grave, très difficile. Voilà l'épreuve aussi des couples. Il y en a aujourd'hui presque 10% qui passent par l'épreuve de l'infertilité. Donc Abraham, c'est quelqu'un qui n'a pas fait une famille comme ça, idéale, du jour au lendemain. Il a dû attendre longtemps d'avoir un enfant. Et il n'en a eu qu'un seul. Voilà, ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on peut croire de la famille, la bonne famille chrétienne avec plein d'enfants, etc. Quant à Jacob, alors Jacob, c'est quelqu'un qui a été souvent dans la dérobade, il s'est un petit peu accommodé de choses bien tordues. Il a quand même eu deux femmes, il a eu aussi des enfants avec deux servantes. On peut dire que c'était encore un reste de polygamie. Mais il a eu une vie familiale quand même assez compliquée. Quant à David, vous voyez, je vais très vite, quand on pense à David, un roi qui a été sage et certainement avisé, mais qui a eu une vie privée assez chahutée. Et il était bien le bien-aimé de Dieu, c'est ce que veut dire son nom. Pourtant, en matière de polygamie, d'adultère, de répudiation et même de meurtre, voilà, c'est toute sa vie familiale qui s'est construite avec tout ça. Ce roi qui a été conscient de ses grands péchés, qui a pu en demander pardon, et puis ensuite le pauvre David, avec sa génération, avec ses enfants, ça a été très compliqué. Les enfants se sont beaucoup ont été très perturbés. Ce sont des enfants qu'il a eu de plusieurs femmes, et ces enfants-là ne se sont pas entendus entre eux, et même un de ses enfants a voulu le tuer. Enfin, ça a été quand même très sanglant. Voilà une famille donc qui était loin d'être une famille idéale. Bien sûr que plus tard, un peu plus tard, avec le développement de la découverte de cet amour de Dieu, et quand on commence à comprendre que à partir de Adam et Ève, que Dieu a bien voulu cette famille idéale d'un père, d'une mère et d'un enfant. Et c'est un peu après ce qu'on appelle la période du judaïsme, où on a bien raccroché l'idéal de la famille à Dieu lui-même, en pensant que si Dieu est Trinité, il y a là une sorte de communion, une communion d'amour en Dieu, que le peuple saint était appelé à revivre aussi lui-même. Et c'est ce qui a commencé à sacraliser un peu le mariage. On ne parle pas évidemment de sacrement encore, ça va venir après avec Jésus, mais vous voyez, il y a déjà une perception très très sacralisée de la valeur du mariage, et en particulier justement de la fidélité. On commence à donner de la valeur à la fidélité, cette fidélité aujourd'hui qui est quand même très malade. Voilà donc que déjà dans l'Ancien Testament, tout doucement, se fabrique, pour ainsi dire, l'idée d'un mariage monogame. Et puis ensuite dans la fidélité. Et même s'il reste encore la possibilité de la répudiation, on appelle ça comme ça dans le judaïsme, on appelle ça aujourd'hui le divorce. Et c'est ce qui va donner une controverse quand Jésus va se saisir du mariage. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'Évangile, dans la Nouvelle Alliance? C'est comme ça qu'on peut, avec ce que nous enseigne Jésus, comprendre cette fois-ci beaucoup mieux ce que Dieu attend du mariage, parce qu'il ne l'abandonne pas. Ce sont les hommes qui ont, pour ainsi dire, un peu travesti la beauté du mariage. Ce sont les désirs des hommes et les péchés des hommes qui ont changé, ces relations au sein du couple et de la famille, qui devaient être très équilibrées, parce qu'elles sont comme sorties de la Trinité, elles sont sorties de l'union des trois personnes divines. Vous savez que le couple, comme la famille, c'est pas autre chose que reproduire les relations d'amour qui existent entre les trois personnes divines. Alors c'est ça que nous laisse l'Évangile comme un fondement très important pour le mariage. Et donc il y a une continuité entre ce que le judaïsme avait déjà compris de la grandeur du mariage, en particulier avec la monogamie, c'est l'unité des époux et la fidélité des époux. Mais ça va être bien sûr repris par l'Évangile. Alors, parce que Jésus ne vient pas comme un célibataire tout seul, Jésus est un enfant d'abord, il est dans une famille et il va naître d'un couple à la fois particulier et en même temps qui nous est très proche, le couple de Joseph et de Marie. Nous sommes dans l'année Saint-Joseph. Voyez, on a beaucoup réfléchi à ce qu'est Saint-Joseph. C'est un véritable mari et c'est aussi un vrai père pour Jésus. Pensons pas que c'est un vieux barbon qui s'occupait de la petite Marie pour lui donner un peu une référence un peu plus sociale. Joseph, c'est un vrai mari, jeune, plein de vigueur, qui a aimé Marie avec tout son être, sans jamais l'approcher sexuellement. Et donc c'est une union conjugale qui nous montre comme un phare, qui est un peu comme une référence pour nous montrer comment l'amour peut aussi et doit se nourrir d'autre chose que de la relation sexuelle. C'est bien plus que ça, le mariage, bien sûr. Voilà donc que dans le début de l'Évangile, Jésus nous donne une image de la famille qui est celle, vous la connaissez, celle de Nazareth, où là nous avons une vraie famille. Un père, une mère et un enfant. L'enfant qui grandit en sagesse et en âge, nous dit saint Luc, des époux qui ont vécu une véritable vie conjugale, hormis bien sûr la relation sexuelle, parce que l'enfant n'est pas né de ses deux parents, il est né de Marie et du Saint-Esprit, si vous voulez. Et donc le Père a sa place parce que c'est un Père qui est le Père tout à fait adoptif et qui a eu à vivre tout à fait une vraie paternité par rapport à cet enfant. Donc nous avons déjà dans la famille de Nazareth un vrai modèle, ce n'est pas un modèle suranné, ce n'est pas un modèle dépassé, c'est un modèle dont il faut creuser les véritables ressorts, parce que cette famille, elle est aussi en même temps très ordinaire, elle vit dans un petit village, on travaille, on est en relation avec les gens, ces gens-là, ils vont à Jérusalem de temps en temps, il y a il y a de très beaux sentiments entre les époux et entre les parents et l'enfant, et donc c'est une famille qui est ordinaire et en même temps qui a aussi connu des épreuves. Alors, je ne vais pas développer ça, mais la Sainte Famille, elle a connu beaucoup d'épreuves, notamment tout ce qui s'est passé au moment de la naissance de l'enfant. C'est des épreuves un peu exceptionnelles à certains niveaux, et pourtant, elle recouvre aussi les difficultés de nos familles d'aujourd'hui. C'est une famille qui a connu l'exil, la précarité, même la menace. Voilà, c'est une famille qui a été très, très chahutée, aussi bien Marie que Joseph. Et donc l'Évangile nous donne quand même un aperçu, bien sûr, de ce que peut être la famille, mais en même temps en la relativisant. Parce qu'on ne peut pas mettre la famille au-dessus de tout. Voyez par exemple comment Jésus peut parler de la famille en disant que ça ne peut être que soumise à Dieu. Et voilà ce que dit Jésus. Voici ma mère et mes frères, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là sont mon frère, ma sœur, ma mère. Et puis aussi, quand il parle autrement dans l'évangile de Matthieu, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille n'est pas digne de moi. Et donc, on ne peut pas mettre les rapports familiaux au-dessus des rapports avec Dieu. Autrement dit, s'il faut faire une hiérarchie, il y a Dieu, ensuite il y a les parents et ensuite il y a les enfants. Cette hiérarchie, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est ce qui construit la famille. La famille qui se construit parce qu'elle tire sa source de Dieu. Et quand on ne croit pas en Dieu, quand les gens sont loin de Dieu, qu'ils ne sont pas tout à fait des chrétiens pratiquants, je crois que c'est inconsciemment qu'ils vivent aussi cette chose-là. Parce que le mariage, la notion de mariage et de famille, elle est comme inscrite au cœur de l'humanité. Je dis bien, même s'il y a beaucoup de péchés, de misères qui font qu'on ne réalise pas toujours cet idéal du mariage. Et le Seigneur le sait bien, qui a rencontré une femme comme la Samaritaine qui a eu 5 maris successifs. Et pourtant, il rencontre cette femme et il va la libérer, il va l'ouvrir à la grâce. Il y a aussi tous ces gens qu'il a délivrés, ces gens qu'il a guéris et qu'il renvoie auprès des leurs pour qu'ils annoncent l'Évangile. Donc, ce n'est pas pour être enfermé dans une famille, mais c'est pour que l'Évangile pénètre au cœur de chaque famille. Il y a aussi la fille de Jaïr, qui avait été présentée par un père catastrophé, pensant que sa fille était morte. Jésus va au sein de cette famille pour libérer cet enfant. Jésus vient donner de la vie dans une famille. Ce n'est pas, vous voyez, une loi. Jésus n'institue pas une loi, et l'Église non plus, pour donner des commandements, une morale. Ce n'est pas d'abord une morale, l'Évangile, ce n'est pas d'abord une morale. Ce sont des sentiments qui s'imprègnent de ce que Dieu lui-même nous donne. C'est-à-dire que nous avons à aimer un conjoint, à aimer un enfant, comme Dieu lui-même nous aime. Et donc on met en pratique, on met en application ce qu'est le commandement de l'amour. Si on peut parler d'un commandement, c'est celui de l'amour dans l'Évangile. Vous savez que Jésus a bien résumé tous les commandements à ces 2 commandements, aimer Dieu, aimer le prochain. Eh bien, dans la famille, comme dans le couple, aimer le prochain, c'est aimer tout simplement ceux qui sont ma famille. Mon conjoint, mes enfants, et même aussi plus largement d'autres, des cousins, etc. Ça, c'est un commandement qui est tout simplement d'aimer et d'aimer de façon toute particulière ceux qui sont dans ma famille. Quand on fait cela, on est chrétien. Quand on fait cela, on réalise l'idéal du mariage. Et je dis bien, même quand nos familles sont imparfaites. Voilà pourquoi il faut garder une verticale, savoir que ce n'est pas l'homme qui fait la famille. Et aujourd'hui, nous avons le drame d'États, peut-être, ce n'est pas que d'aujourd'hui, mais des États qui fabriquent une famille sous d'autres modes. Et je pense au mariage homosexuel, qui est une décision très grave, parce que cette décision casse ce primat de la famille qui s'appelle le couple fondé sur l'homme et la femme. Donc ça, c'est une loi, c'est une décision politique qui atteint très profondément la famille. Et puis ensuite, il y a toutes les lois qui ont favorisé le divorce. On sait que ça ne fait pas du bien aux familles, le divorce. Et les divorcés eux-mêmes ne considèrent pas que de divorcer, ce soit une bonne chose. Ils conçoivent que le divorce puisse être justement un moindre mal. Il y a aussi le drame de l'engendrement qui se fait maintenant de façon de plus en plus difficile, notamment avec la PMA, où au départ il y a la bonne volonté d'aider des femmes à mieux mettre au monde des enfants, mais actuellement c'est de plus en plus une façon de faire des enfants en dehors de l'amour du couple, c'est-à-dire de fabriquer des enfants, comme on dit, des bébés éprouvettes hein, qui naissent sur une paillasse de laboratoire et qui ne naissent pas dans la rencontre amoureuse entre un homme et une femme. Donc on voit toutes ces déviations, vous voyez, qui sont là en train d'atteindre les fondements de ce que sont le couple et la famille. Mais ne faisons pas ce rejet de ces familles ou de ces couples qui ne sont pas encore parvenus à cet idéal. Mais gardons bien sûr au cœur qu'il s'agit de continuer à annoncer cette bonne nouvelle du mariage, qu'il est sain, qu'il est beau de voir des jeunes qui s'aiment, et pour cela de les accompagner pour qu'ils creusent les raisons de leur union, les raisons de ce désir de s'unir, et quand au désir de s'unir succède le désir d'avoir des enfants, alors on voit bien que l'on retrouve le fondement de ce projet de Dieu pour l'homme et la femme. Donc, on est absolument, pour ainsi dire, selon la nature quand on est selon le cœur de Dieu. Quand on veut réaliser une vie conjugale ou une vie familiale comme Dieu l'a conçue, c'est en même temps obéir à notre propre nature. La preuve, c'est que la grande majorité des jeunes aujourd'hui veulent absolument trouver ce bonheur, parce que c'est le numéro un du bonheur, c'est le couple et la famille, et de plus en plus. Et ce bonheur, on ne le trouve dans leur esprit, et c'est en dehors de la foi, qu'en s'unissant un homme et une femme, en bâtissant ensemble leur maison et en ayant des enfants. Et ceux qui n'ont pas d'enfants souffrent assez de ce que ça veut dire pour comprendre que c'est aussi de cette union d'un homme et d'une femme que naît le mieux la vie. C'est l'amour et la vie. Voilà les deux composantes de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le couple et de ce qu'est la famille dans le cœur de Dieu. C'est ce que le Concile Vatican II va reprendre dans une formule que je trouve très riche, disant que le couple, c'est la communauté de vie et d'amour. Il l'applique aussi à la famille. La famille, c'est une communauté de vie et d'amour. De vie parce que la vie naît au cœur de cette union des époux pour donner des enfants, et puis l'amour parce que c'est l'amour des parents qui est diffusif de lui-même, que cet amour des parents est fécond. Et le dernier texte du magistère qui s'appelle Amoris Laetitia, j'espère que vous avez entendu parler de cette belle exhortation apostolique du pape François, qui vient compléter ce qu'avait dit Jean-Paul II de si beau sur l'amour, sur la sexualité, sur le mariage, sur la famille, ce que déjà nous avons découvert, particulièrement au XXe siècle, de la beauté du mariage. Ce texte donc d'Amoris Laetitia vient donner des références très précises, plus pastorales, pour justement s'occuper de ces situations qui sont imparfaites. En précisant bien que nous sommes dans une tension vers la croissance et que les familles que vous connaissez, les vôtres, votre propre famille peut-être, les familles de vos enfants, si vous avez des enfants mariés, vos enfants qui ont pu connaître ces désagréments, ces difficultés, des séparations, des naissances difficiles, des fratries qui sont plus ou moins bien équilibrées, et des fratries aussi où quelquefois, malheureusement, se manifestent aussi beaucoup de tensions et de divisions. Voilà, ça, ce sont nos familles humaines. Mais c'est dans cette terre, qui n'est pas toujours une bonne terre, que Dieu continue à donner la bonne semence du mariage, de l'amour, que Dieu veille à aussi nous ouvrir les portes d'un mieux vivre, en cultivant les vertus de l'espérance, les vertus de l'humilité, les vertus du respect, les vertus de la gratitude, toutes ces valeurs qui font la beauté d'une famille. Alors je suis persuadé, pour avoir accompagné beaucoup de couples en difficulté, de couples séparés, d'enfants aussi qui sont séparés de leurs enfants, on voit des enfants qui, grandissant, ne veulent plus voir leurs parents, on voit aussi tous ces désordres hein, qui sont nombreux, qui atteignent la famille, qui ne sont pas des façons de reléguer ceux qui ne seraient pas bien. Il faut surtout sortir de ces mécanismes d'exclusion, comme on a trop souvent exclu les divorcés ou exclu des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants en les montrant du doigt, ou exclu des familles où on ne s'entend plus, où les parents et les enfants sont séparés ou divisés. Les familles sont imparfaites, je dirais que Dieu le sait, ça, parce qu'il sait, il constate, il sait que l'homme qu'il a créé de façon parfaite est passé par l'épreuve du péché. Et donc le péché, c'est une réalité qu'on ne peut pas renier, qu'on ne peut pas dénier. Le péché, ça s'appelle le péché originel, au sens où dès l'origine, il y a comme en tout homme une propension à se détourner de Dieu. Et Dieu continue à proposer cette bonne nouvelle du mariage et de la famille, qui est la vocation commune de la plupart des gens. Et cette vocation-là, vous voyez, elle n'est pas simplement liée à la foi chrétienne, elle est déjà une réalité naturelle. C'est ce que l'on, et je vais résumer avec ça, Jésus dit qu'il élève le mariage à la dimension d'un sacrement. Il élève le mariage, donc il part de quelque chose qui est déjà là, qui est même à l'origine du monde. C'est ce que Jean-Paul II appelait le sacrement primordial. Quand un homme et une femme décident de vivre ensemble, déjà il y a quelque chose de presque sacramentel. Il y a la présence de Dieu est déjà là, comme une semence du Verbe, une semence qui fait qu'il y a de l'Évangile qui peut s'ajouter à ça. Il y a la grâce de Dieu qui est là pour relier de nouveau des gens qui s'aiment sans savoir que Dieu existe, et qui peuvent découvrir au cœur de leur amour que cet amour n'est pas le leur, mais qu'il est en réalité un don de Dieu. Voilà, chers amis, j'aimerais bien que vous posiez des questions, surtout à partir de ce qui peut vous poser des soucis dans ce que sont vos familles réellement, les familles telles qu'elles sont autour de vous. Ça peut être aussi votre propre famille. Et je dis bien qu'il y a toutes ces façons imparfaites encore de vivre cela. Eh bien, qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Voilà ma question. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans ces familles qui sont trop souvent imparfaites?
Père Michel, nous avons une auditrice qui souhaiterait poser une question. Il s'agit d'Elisabeth. Elisabeth, c'est à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre exposé. J'ai pas tout entendu parce qu'à un moment j'ai dû partir déposer mon garçon, mais j'ai écouté le début et la suite. En fait, moi je me suis mariée en 2015 et en fait quand j'ai entendu le titre, je me suis dit très bonne question parce que moi depuis que je suis mariée, je vis que la galère en fait. En me mariant, comme beaucoup, hein, j'allais avoir plein de choses, allaient commencer enfin dans ma vie. Et c'est une succession de galères. On est catholiques pratiquants tous les deux. En fait, on a tout fait correctement, au sens où on a habité ensemble qu'une fois mariés, on a fait l'amour qu'une fois mariés. Et en fait, on s'est vraiment découvert que quand on a habité ensemble. Et en fait, on a arrêté de prier ensemble une fois qu'on a été mariés. Enfin, toute la galère a commencé mariés, quoi.
Oui. Alors, vous faites référence à ce que vivent beaucoup, qui est la grosse épreuve de la désillusion. C'est-à-dire que vous aviez sans doute un certain idéal du mariage, et c'est normal d'avoir cet idéal. Mais il faut très vite le confronter à la réalité. Parce que tout simplement, vous avez découvert que l'autre n'était pas tout à fait ce que vous pensiez. Parce que vous savez, une personne humaine, c'est tout un monde. Il y a aussi toute son histoire, il y a ses blessures, et il y a aussi ses péchés. Eh bien, le mariage, ça, il faut que ça assume ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le rêve. Et justement, l'idéal romantique, c'est terrible parce que ça nous maintient dans le rêve. Alors que le mariage chrétien, c'est un mariage réaliste qui doit intégrer la faiblesse, la vulnérabilité. Et si aujourd'hui vous dites que c'est la galère, c'est parce que vous ne pratiquez pas assez la bienveillance par rapport à ces efforts qui vous divisent. Il y a le pardon. Et bien sûr qu'on se blesse. Vous savez, marié 50 ans, on se blesse régulièrement. Et pourtant, il faut installer entre vous des moments de pardon. Parce que, voilà, l'amour, ça a besoin du pardon. C'est comme une voiture, il faut régulièrement, il faut changer l'huile parce qu'elle s'abîme. Le pardon, ça refait l'amour. Donc, est-ce que vous vivez le pardon? Est-ce que vous vivez assez de temps de dialogue pour vous connaître? dire quels sont vos projets, vos émotions, pour mieux vous connaître, parce qu'on est très vite dans les jugements avec une personne avec qui on n'a plus de communication. Voilà, on devient des étrangers l'un par rapport à l'autre, et il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc le moyen, c'est d'avoir régulièrement des temps de dialogue, et puis des temps de prière. Vous évoquez que vous avez pu prier quand vous étiez beaucoup plus jeune, vous avez 5-6 ans de mariage, et qu'est-ce que vous avez fait de cette obligation, de cette sorte de discipline qu'on s'impose ensemble, de se retrouver devant le Seigneur? C'est pas parce qu'on est en accord, on n'est jamais en accord sur tout, peu importe. Mais même quand on est en désaccord, on se met ensemble, voilà, devant le Seigneur, tranquillement, tous les soirs, avant de s'endormir, on récite un Notre Père, quelque chose de très simple, pour se rappeler que l'on est des simples enfants, un peu gâtés, un peu pécheurs, voilà, on est blessé, on s'est blessé. Eh bien, bien sûr qu'on demande pardon à Dieu ensemble, et voilà. Et la prière, c'est ce petit temps qui permet de refaire un peu ses forces à deux. Et ça, bien sûr que vous pouvez reprendre ce chemin-là. Ce n'est pas parce que vous ne le vivez plus que vous ne pouvez plus le revivre. Moi, je crois que vous êtes dans un moment de crise, comme on dit, c'est-à-dire que la crise, c'est une chance pour s'interroger, pour rebondir. Faites, si vous pouvez, une retraite de couple, ça existe ça, où on reprend tous les bons éléments qu'on a un peu oubliés, les éléments qui fondent la vie du couple. Voilà. Alors, c'est pas perdu. Courage, Elisabeth.
D'accord, merci.
Merci, Elisabeth.
Merci.
Au revoir. Nous avons un message d'Isabelle. Bonjour, merci pour votre catéchèse et votre témoignage sincère. La notion de famille anormale me gêne. Je pense que tous les chemins mènent à Dieu et que tout le monde n'a pas la chance de venir fichier d'un modèle famille stable et suffisamment averti des préceptes de l'Église. Vous dites bien que la famille de Nazareth était ordinaire. Et si l'on utilise les termes d'aujourd'hui, nous pourrions dire qu'il s'agit d'une famille recomposée, mais issue de Dieu. Donc peut-être que chacune des situations mérite d'être étudiée sans généralisation. C'est ce que je crois, ce que le pape François propose également. C'est signé Isabelle.
Eh bien Isabelle, je suis absolument d'accord avec vous. Je n'ai pas parlé de famille anormale. J'ai dit qu'on pensait qu'il y avait des familles anormales. Mais j'ai dit le contraire. Moi je crois qu'il ne faut pas rester dans une culture de la perfection, parce que ça c'est pas l'évangile. Quand on est dans la perfection, on finit par faire des exclusions. Et c'est ce qui s'est passé trop souvent dans l'histoire de l'Église. Il faut rester dans une culture de la sainteté, c'est pas la même chose. Et on est saint parce qu'on est conscience de ses limites, de sa vulnérabilité. Et justement, Amoris Laetitia, c'est le texte qui nous redonne cette vision qu'il y a non pas des modèles différents, mais il y a des familles différentes et qui passent par des épreuves. Et certaines de ces épreuves, ça peut être la séparation, le divorce, les recompositions, toutes ces choses-là. Et bien sûr qu'il y a un chemin de sainteté pour toutes les familles, quelles qu'elles soient, dans quelque situation qu'elles soient. Et moi, je crois tout à fait que Dieu interpelle tout le monde. Ça, on est bien d'accord, Isabelle.
Merci beaucoup, Père Michel. Nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à notre thème d'aujourd'hui?
Eh bien, on est dans l'année de la famille. Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, de prendre un temps en famille pour c'est beau qu'une famille, de temps en temps, fasse, comme on dit, un petit état des lieux. On se retrouve ensemble, ça s'appelle un conseil de famille, ça s'appelle aussi dans un couple un petit moment de révision de vie, on s'arrête, on se pose, parce que notre vie est beaucoup trop rythmée de quantité de choses qui nous dispersent. Se recentrer tout le temps l'un sur l'autre, dans le couple ou dans la famille, ça c'est beau de faire ça régulièrement. On appelle ça le devoir de s'asseoir dans les équipes Notre-Dame. On peut concevoir qu'aujourd'hui, la menace, c'est de ne plus s'occuper de son prochain, tout simplement. Et là, vraiment, on est au cœur de l'Évangile. Parce que mon conjoint, je ne suis pas assez je suis pas assez bienveillant, je ne suis pas assez attentif à ce qu'il vit. Et pour ça, il faut absolument se poser de temps en temps. Alors ça peut aller jusqu'à la prière, si on peut reprendre cette habitude, la prière en couple ou la prière en famille, mais surtout, surtout du dialogue. Parce que le dialogue, c'est l'aliment de l'amour. Et on est bien d'accord que c'est l'amour qui tient la famille. Or, c'est cet amour qui souvent est malade, bien sûr. Mais l'amour, ça se guérit aussi. Voilà.
Merci beaucoup, Père Michel Martin-Prével, et nous vous retrouverons le mois prochain pour un autre thème dans le cadre de nos émissions, le mariage, croisière ou galère. Merci beaucoup.
Au revoir à
Au
tous.
Revoir.